Le plus grand jour pour l'iPad depuis sa création. Tim Cook manquait de superlatif il y a une heure à peine au terme de la keynote Let Loose pour qualifier les nouveaux iPad Air qui passent au M2 et les nouveaux iPad Pro qui passent du M2 au M4. Oui, oui. Des iPads qui n'ont jamais autant ressemblé à des Mac avec leur nouveau Magic Keyboard en aluminium. On va aussi revenir sur le nouveau Pencil Pro, encore plus précis, encore plus réactif. La surprise du jour, voire de l'année, c'est donc l'annonce du M4 dès ce 7 mai, 6 mois à peine après le M3. Souvenez-vous, c'était le 30 octobre dernier. Alors qu'a-t-il dans le ventre? Qu'apporte-t-il? Était-il indispensable? Frédéric Crassa, le spécialiste mondial des processeurs et des composants, va nous aider à comprendre. Et puis, quelles conséquences sur la stratégie de gamme d'Apple qui donne pour la première fois la priorité à un autre produit que l'iPhone pour une nouvelle génération de puces Apple Silicone? On va tous se poser la question. L'action Apple a gagné plus de 7% mercredi, conséquence directe des résultats trimestriels annoncés mardi soir. Ils ont surpris tout le monde. Alors certes, les ventes d'iPhone ont baissé de 10%, mais les ventes en Chine ont été beaucoup moins mauvaises que prévu et les services représentent maintenant un quart des revenus totaux d'Apple. On va évidemment en reparler. Et puis, la communauté iWeek sur Patreon vous attend. Merci aux deux nouveaux venus, Stéphane Charousset et Jérôme Feutley. Welcome on board, guys. Vous pourrez profiter de tous les bonus, dont celui du jour, nos souvenirs du lancement du tout premier iPad, pour faire comme eux et en profiter, patreon.com/iWeek. La dernière datait de plus de 6 mois, puisque c'était le 30 octobre dernier, avec la présentation des processeurs M3, de l'iMac M3, et des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces en ce 7 mai 2024 et cet épisode 185. Bonjour à toutes et à tous au passage, je suis Benjamin Vincent. Apple a donc dévoilé ses nouveaux iPad Air et iPad Pro. Alors pour débriefer ce premier Apple Event de l'année, à 34 jours seulement d'une autre keynote prévue elle le 10 juin en ouverture de la WWDC, eh bien nous sommes 5 dans le studio virtuel d'iWeek, la semaine Apple. Bienvenue à toutes et à tous. Salut Fabrice Neumann.
Salut Benjamin, salut à toutes et tous.
Trop chouette de te retrouver, toi le mentor en technologie. On te retrouve, on te suit sur ton site
Neumann.fr.
Eh oui, bien sûr. Salut Elia Bitbol.
Bonjour Benjamin, content de te retrouver parmi nous.
Eh oui, j'ai raté la semaine dernière.
Tu nous as manqué la semaine dernière. Bon, on a essayé, hein, on a essayé de se débrouiller. Mais je pense
et Fabrice a fait un très bon boulot. Hein.
Ah, c'est Fabrice, il est fort.
Il est bien aimable.
Bon, Elie, je te rappelle que tu es le cofondateur des Apple Premium Resellers MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Tu es le président des Apple Premium Resellers en France.
Mais il ne faut plus le dire.
Il ne faut plus le dire.
Mais là, tu lui as dit, je te rappelle, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mais oui. Parce qu'à son âge, tu sais, il peut oublier. Hein.
Et oui.
Bon, Elie, en tout cas, tu n'as pas oublié que c'était un jour important. Et là, on te chope littéralement au vol.
Ah ben oui, parce que là je suis submergé après une annonce entre les tarifs qui arrivent, qu'il faut mettre à jour, les pages web du site qu'il faut mettre à jour et tout le reste, les produits qu'il faut commander, les unités de démo qu'il faut répartir entre les magasins, c'est juste la folie. Normalement ça se déroule sur 48-72 heures, mais il se trouve que demain et après-demain c'est férié, ce que les Américains ignorent.
Eh oui, bien sûr, parce que c'est férié en France, évidemment, et pas forcément dans le reste du monde. Merci d'être là, Elie. On profite de toi tant que tu es là. Tu pars, évidemment, si tu as besoin, avant la fin de cet épisode. On ne t'en voudra pas. Je salue aussi Gilles Dounès. Salut, Gilles.
Salut, Benjamin. Bonjour, les amis. Bonjour, Fred. Content de te retrouver, puis content de retrouver mes copains en alternance que j'ai pas pu avoir ensemble depuis un petit moment.
Voilà, ça fait plaisir effectivement. Il nous manque encore François Le Truédic et Baptiste Dajon, on les embrasse tous les deux. Mais leur présence, leur absence est compensée, on va dire, cette semaine par la présence d'un invité que vous connaissez dans iWeek la semaine Apple, c'est Frédéric Crassa. Salut Fred.
Bonjour à tous. Un jour j'arriverai à faire un iWeek avec François, hein, parce qu'à chaque fois on se croise mais jamais en même temps.
Mais il est toujours pris les jours de keynote François, donc on lui en veut pas, c'est comme ça.
Oh, non, je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on avait prévu de t'accueillir aujourd'hui pour revenir sur les résultats trimestriels d'Apple, qui, a priori, n'est pas un sujet sur lequel on te sollicite d'habitude. Et puis on a eu cette annonce des nouveaux iPad Pro avec ce nouveau processeur M4 dont on va parler dans un instant. Alors, c'était donc la première keynote de l'année il y a quelques instants, on en sort à peine. La précédente, souvenez-vous, c'était le 30 octobre 2023. C'était la keynote DM3, donc à chaque keynote, son processeur. On va y revenir évidemment dans un instant. Peut-être qu'on peut commencer par faire un tour de votre première réaction à cette keynote qui a duré moins de 40 minutes, qui a été streamée en vidéo depuis l'Apple Park. Fabrice, on connaissait le programme. Est-ce que l'assiette était à la hauteur de nos espérances?
Oui, je pense. Et puis il y avait cette surprise quand même, le M4. Moi, j'ai été surpris. J'y croyais pas.
Ouais.
On va reparler d'un instrument de protection capillaire pour Ellie, parce qu'il y a un truc qui va se passer quand même. Mais moi, j'y croyais pas. Donc ça a été vraiment vraiment une surprise, malgré Gurman, malgré tout ça. Voilà. Et puis, il y avait d'autres choses qui ont été annoncées, comme le grand iPad Air, qui était moins une surprise, on s'y attendait. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec un de nos chers auditeurs, salut Grégory, il n'y a pas très longtemps, qui justement attendait de voir les annonces, parce qu'il travaille lui quasiment exclusivement sur un iPad Pro, ah oui. Et il voudrait passer un plus grand écran, et peut-être que l'iPad Air grand écran lui suffirait. Et donc voilà, donc ça va intéresser des gens comme lui.
Gilles, on fait court, c'est vraiment un apéritif. Première réaction à cette keynote, aux annonces. Alors, celles qui ont eu lieu, celles qui n'ont peut-être aussi pas eu lieu.
Alors, je vais rester sur ce qui a eu lieu. Devant le scepticisme général, j'avais parlé éventuellement d'accent mis sur l'intelligence artificielle. Et effectivement, c'est un peu ce qu'ils ont fait, parce qu'ils se préparent à faire du gros, du lourd d'ici un mois. Ils nous ont donné rendez-vous et puis on a d'ores et déjà un aperçu de ce que l'iPad Pro peut faire avec l'accent mis sur la création. On va y revenir. Moi, ça m'a surpris et agréablement surpris.
On va y revenir effectivement. Fred, toi, ton premier sentiment là, à la sortie de cette keynote qui a pris fin il y a moins de 2 heures.
Déjà sur la réalisation, je ne sais pas si vous avez remarqué, je trouvais qu'il y avait quand même une très bonne réalisation. Il y avait des effets comme ça dans le. Ils étaient dans un métro, je crois. On voyait John Ternus dans un micro. Et puis après, il y a des effets des transitions quand ils passent de l'iPad Air à l'iPad Pro, avec un côté plus anthracite, plus sombre, etc. J'ai beaucoup aimé la réalisation. Je trouvais que c'était assez bien rythmé. C'est une keynote condensée, courte. Je pense que l'iPad méritait d'avoir quand même du renouveau. Il y a beaucoup de chouettes annonces. Le M4, on va en parler, il arrive un petit peu en catimini, ils ont fait très court sur le M4, mais c'est pas, c'était, voilà, on verra
tout
pourquoi
le monde
ils étaient obligés
avec toi,
de...
on va y revenir.
Voilà, mais globalement je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes annonces, il y a plus de cohérence sur la gamme iPad, ce qui était quand même le minimum. Il fallait qu'ils améliorent un petit peu les entrées de gamme et les options, etc. Je pense qu'ils ont fait quand même un travail intéressant.
Alors,
globalement, je suis content.
Ouais. Bon, on va entrer dans le détail. Ellie, tu veux ajouter quelque chose dans cette
Non, pas ajouter, parce que moi, j'ai pas donné mon avis encore.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais t'avais déjà parlé au début, alors.
Oui.
Mais c'est vrai. Mais je veux ton avis, tu as raison, Ellie.
Le chapeau.
Bon, c'est parce qu'en fait, moi, je suis un peu pas d'accord avec mes camarades. Moi, je trouve que c'est une paquinote, en fait. C'est une mini-note. Il faut inventer un nouveau terme, parce que d'abord, 37 minutes, Mark Gurman s'est trompé de 1 minute, il avait dit 36, mais bon, on lui en veut pas. mais
générique.
Surtout, ce n'est pas une keynote, parce que figurez-vous que Tim Cook n'a pas parlé à la fin. Donc, il était là à l'accueil, il a parlé un peu de merveilleuses expériences du...
Mais si, il parle à la fin.
Mais si, il parle à la fin, parce qu'il dit qu'il évoque l'iPad 10 et l'iPad mini, justement, on a plus pensé à toi.
Ah bah alors, j'étais déjà en train de courir, vous voyez, comme quoi.
Il évoque la fin.
C'était donc une mini keynote avec Tim Cook, alors que j'ai raté à la fin, je vais le revoir.
C'était trop court, t'as pas eu le temps de voir la fin.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait les infos qui commençaient à tomber en disant « page web ici ». Donc du coup, j'avais qu'un seul écran, moi.
Bon, alors, je te repose la question, bon. c'est quoi ton premier sentiment sur le contenu de cette keynote?
Ben, c'est un format maintenant qu'Apple maîtrise complètement, donc ils n'ont pas besoin de faire ultra long, ils disent ce qu'ils doivent dire et ils ne s'attardent pas autour des petites choses, des grandes surprises comme le processeur, bien sûr, et des petites surprises puisque le nouveau Pencil Pro, dont on a beaucoup parlé avant, ils l'ont un peu survolé. On n'a pas eu tous les détails. On est resté un peu sur notre faim parce que cette fonction de retour haptique ou de pressage, on ne l'a pas vu. Il n'y a pas eu de démo, en fait, hein, de ces caractéristiques complètes. Alors, on sait qu'il est nouveau, qu'il s'appelle Pro et voilà, mais on en apprendra plus. Et puis tout à l'heure, quand on va rentrer dans le détail, il y a aussi des choses qui nous ont pas dit, mais vous savez que l'enfer est dans les détails et Apple nous aurait menti sur un des produits. On va voir ça tout à l'heure.
Attends, mais dis-nous maintenant, parce qu'on va...
C'est le diable, le diable qui est dans les détails, pas l'enfer.
Dis-nous tout de suite,
c'est déjà pas mal.
Mais le diable étant à l'enfer, bon.
raconte.
Alors oui, en fait, vous savez que l'iPad Air... n'est pas en fait un 13 pouces. Alors, il y a une note, il faut aller dans la page Apple du site français qui s'appelle « Comparer les modèles ». Et donc là, parce que j'étais en train de regarder ça avant de démarrer, ils ont une phrase que je n'avais jamais vue, en fait, sur un comparatif de produits Apple, qui dit « La diagonale d'un produit pris bord à bord est de 13 pouces. Par contre, l'affichage est du 12 pouces 9. » Et ce qui s'affiche réellement est inférieur à ça. Mais ils ne disent pas de combien. Donc, ça m'a laissé complètement scotché.
C'est parce que les bordures doivent être légèrement plus épaisses sur l'iPad Air que sur l'iPad Pro.
Sur l'iPad Air, c'est 13 pouces. Hein. Ça, ils le disent. Hein. C'est,
non, mais les bordures, je veux dire.
Ah, les bordures.
Je crois qu'ils avaient fait France, déjà ça. Le truc, non, avec l'iMac qui n'était pas tout à fait un 24...
Oui,
il est 24 pouces ou un 21 pouces et quel qui
il est 23,5 et pas 24, mais il est vendu comme un 24.
Oui, ouais, mais voilà. Mais il ne s'était pas fendu d'une. Alors la phrase exacte, je vous la relis. Lorsqu'on le mesure en diagonale, pardon, comme un rectangle, l'iPad Air 13 pouces fait 12 pouces 9. La zone d'affichage réelle est moindre. C'est beau.
Ils ont bon. Ils ont dû tomber sur le capillotracteur de service, celui qui prend souffrir de troubles obsessionnels compulsifs. Ouais.
Et qui a mais pris qu'est-ce qu'ils disent pour l'iPad Pro du coup?
Ah, rien. Je suis en train de chercher, je ne vois rien justement sur la,
est-ce
sur
qu'il
la,
y a
même
la
page,
même mention,
il parle que de l'iPad Air.
Oui. D'accord. On va faire de la pédagogie juste pour ceux qui n'ont pas vu la keynote. Est-ce qu'on peut être clair sur ce qui a été annoncé? Quels ont été les produits qui ont été annoncés? Et ceux qui n'ont pas été annoncés? Qui veut?
Alors, pour ceux qui auraient envie, ils peuvent se rendre sur mon bel article qui vient tout juste d'être publié au moment où nous enregistrons sur commentçamarche.net parce que j'ai fait ça juste avant.
Yes.
Voilà. Donc, je vais essayer de me lancer puisque je viens d'écrire ça. Ont été annoncés deux nouveaux iPad Pro dotés du M4, deux nouveaux iPad Air. Donc, il y en avait qu'un avant. Maintenant, il y en a deux. Un 11 pouces, un 13 pouces. Allez, si Ellie veut bien, on va simplifier en disant quand même 13 pouces et 11 pouces. Parce qu'ils ont cette caractéristique de tous être compatibles avec les nouveaux Magic Keyboard qui ont été annoncés aussi. Magic Keyboard qui ont comme caractéristique d'être en aluminium, mais surtout d'avoir une rangée de touches de fonction au-dessus du clavier, et ce qui manquait quand même beaucoup.
Et donc les iPad Pro font aussi 11 et 13 pouces. Hein.
et les iPads Pro font aussi 11 et 13 pouces. C'est intéressant parce qu'ils ont quand même, il me semble qu'il y a une phrase, je ne me rappelle plus exactement, mais quand ils ont présenté le Magic Keyboard avec la rangée de touches de fonction, ils ont presque évoqué que c'était comme un Mac.
Ben oui.
Et ça m'a beaucoup frappé parce que l'iPadOS est quand même très loin de macOS. Ouais. Ça promet éventuellement quelque chose pour iPadOS 18 parce qu'ils ont osé faire la comparaison, le rapprocher du Mac, ce qu'ils n'avaient encore jamais fait, me semble-t-il.
Très juste.
Et donc, les deux iPad Air sont équipés de la puce M2. Alors que l'iPad Air 11 pouces précédent était équipé du M1. Les deux iPad Pro 11 pouces et 13 pouces sont équipés du M4, donc c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en passant directement du M2 au M4, ce qui est quand même assez étonnant. Et puis ils ont donc annoncé le Pencil Pro, qui a deux nouveaux capteurs. On peut changer sur le pencil précédent, il fallait faire une double tape pour changer d'outil. Maintenant, on peut faire une pression des deux doigts, ça réagit à la pression, un peu comme les pavés tactiles qu'on connaît ou le bouton tactile des iPhones quand ils sont passés au bouton qui bougeait pas. Là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et puis avec aussi un autre capteur, un gyroscope intégré au Pencil Pro, qui est capable de détecter la rotation et donc, par exemple, de modifier un outil qu'on est en train d'utiliser, un peu comme quand on change l'angle d'attaque d'un surligneur, par exemple.
C'est énorme.
On peut le faire. Ça, je trouve ça assez incroyable. Je suis assez d'accord avec Gilles. Voilà. Et puis, donc, il y a deux choses qui n'ont pas été annoncées, enfin, qui ont été justement annoncées par Tim Cook à la fin, en disant, pour le reste, l'iPad mini, c'est formidable, mais il reste comme il est.
Et, pour le moment.
Il baisse de prix.
On en avait parlé avec déjà dans l'émission en disant que globalement l'annonce semblait être vraiment autour de la créativité, de la création, et que l'iPad mini est pas fait pour ça, en tout cas est pas marketé comme ça, donc c'était pas tellement étonnant. Et puis l'iPad 10, l'entrée de gamme dont on s'était, c'est-à-dire surtout moi, gossé beaucoup. Et donc toujours au catalogue, mais il a au moins baissé de prix, donc en France il est maintenant à 439 €, ce qui le rend un peu plus acceptable.
À peine.
Et détail qui m'a frappé, c'est que donc l'Apple Pencil Pro ne remplace pas le Pencil tout court, sauf que celui qui reste au catalogue, c'est le Pencil USB-C. Donc c'est pas un pencil magnétique qui se recharge en le collant par un aimant sur un des bords de l'iPad. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce que le Pencil Pro, c'est 149 €, je crois. C'est gros à manger, quoi. Et puis dernière petite chose, il y a un point commun à tous ces iPads. C'est que la caméra frontale a été déplacée sur un des bords longs plutôt qu'un des bords courts. Donc ça consacre le fait que les iPads sont plutôt maintenant utilisés en mode paysage que portrait, comparativement au premier iPad qu'on va évoquer dans notre bonus. Et ils ont donc résolu le problème de justement la webcam est donc sur un des bords longs, ce qui n'empêche pas de poser le pencil qui se recharge magnétiquement sur le même bord que la webcam. C'était donc possible. Et donc, je regarde toujours d'un œil torve l'iPad 10.
Élie.
Alors, des petites informations supplémentaires par rapport à l'iPad Pro comparé à l'iPad Air. Hein. On va prendre le 13 pouces parce que c'est la nouveauté. Bon, le Pro a une technologie ProMotion, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à 120 Hz, donc il est plus fluide. Et donc, il hérite du nom de écran Ultra Retina XDR, alors que le 13 pouces Air se contente de écran liquide Retina. Donc, il n'est pas XDR, il n'a pas ProMotion. Pour le reste, des petites choses. Il y a une option nano texturée uniquement sur les modèles 1 et 2 Tera. Ça doit coûter une blinde. Rappelez-vous que dans le moniteur Apple du Mac Pro, l'option nano texturée, c'était 1000 balles. Hein. Donc là, ils n'en parlent pas. Il faudra regarder dans les CTO, mais ouais. Je ne sais pas. En fait, ça peut être utile pour certains photographes ou designers haut de gamme. Mais en même temps, c'est surprenant parce que le nano texturé, c'est un écran qu'on ne peut pas toucher. Il faut un chiffon spécial. C'était la première chiffonnette Apple. Or là, sur un écran tactile, ne pas le toucher, ça va être compliqué. Hein. Donc, mais bon, vrai. On verra. Après,
c'est une bonne remarque. La chiffonnette sera-t-elle livrée avec l'iPad Pro?
Ah bah, attention. Non, sur le nano texturé 1 Tera à 2000 et quelques euros.
Attention,
oui,
moi j'ai dit chiffonnette gate en préparation.
On a le prix de l'option nano texturé ou pas?
Non, je n'ai pas trouvé pour l'instant, mais j'ai vu circuler un tarif là dans mon espace de travail, donc je vais essayer de vous dire ça.
D'accord.
Élise,
est-ce que tu parles de... L'Ultra Retina XDR n'est pas lié au promotion, enfin, c'est plus non. lié aux qualités globales de l'écran,
oui.
Notamment à sa luminosité, donc 1000 et 1600 nits en pointe, et puis à cette techno de tandem OLED.
Absolument.
J'imagine aussi qui permet de. En fait, il double la dalle OLED. Pour augmenter la luminosité, c'est ce que j'ai compris.
C'est ça, et en fait, une dalle OLED est faite avec un certain nombre de cellules, mais il y a des petits espaces entre elles, et pour les combler, ils ont fait une dalle qui se situe un peu plus bas, et j'ai failli envoyer mon micro bandé,
oui, on a failli
et
perdre.
Qui comble le vide. Donc, voilà. Donc
j'ai la réponse. Je ne voulais pas t'interrompre. Enfin, je
130 euros pour le texturer, sinon.
Voilà, ah, c'est 130. Ça.
Ouais. 130 euros. Bah, okay. Je m'attendais à pire.
Oui, ça va.
Oui, parce que c'est 500 euros sur le grand écran 32, 36 pouces, je ne sais plus combien, là, mais en même temps, c'est plus petit. Donc.
C'est vrai.
Ça n'est disponible qu'avec les versions 1 Tera et 2 Tera de stockage.
D'accord.
Ouais, j'avais juste un dernier point, après je laisse mes petits camarades compléter, et Fred pourra certainement nous expliquer la différence, mais quand on regarde... Prenons un utilisateur lambda qui regarde la comparaison sur le site Apple des deux processeurs. Un M2 à 8 cœurs, un GPU 10 cœurs et un Neural Engine de 16 cœurs. Le M4 à 10 cœurs au lieu de 8, un GPU de 10 cœurs et un Neural Engine de 16 cœurs. Donc, il va se dire, mais attends, c'est le même nombre de GPU, c'est le même nombre de Neural Engine et ils nous disent que le M4, c'est la révolution dans le Neural Engine, etc., s'il y en a autant. Alors, qu'est-ce qui change entre le M2 et le M4? Fred a peut-être la réponse.
Quelle bonne
personne. Alors, on va garder le M4. On va d'abord finir notre tour d'horizon des iPads, de leurs caractéristiques. Bon, puisqu'on est sur l'iPad Pro, est-ce qu'on peut rester sur l'iPad Pro?
Oui.
Est-ce qu'il y a des caractéristiques justement remarquables qui sont nouvelles par rapport à la génération précédente, Fred?
Ce qui est assez remarquable, et franchement, on ne s'y attendait pas, c'est qu'ils arrivent quand même à faire une dalle très très fine, puisque tout ça, ça a été annoncé avec une épaisseur qui est assez incroyable. Quand on voit les visuels, je pense qu'il faudra vraiment le tenir ensemble, ce gros iPad de 13 pouces, ça doit être assez impressionnant. Et la dalle a dû participer à ça, la double dalle, parce qu'en fait, c'est une double couche OLED. Mmh. Et vous savez, l'OLED a pas tendance à être très lumineux, ce qui est quand même un problème sur l'iPad, parce que on veut quand même une grande qualité chez Apple de couleur, avec une forte luminosité, etc. Et puis du XDR, du HDR. Et en fait, en faisant cette double couche, ils arrivent à augmenter la luminosité plutôt que d'avoir une luminosité, comme il explique, relativement faible. Ils arrivent à avoir la même luminosité qu'avec du mini LED, qui bien sûr est plus épais parce qu'il faut mettre plein de petites lettres, etc. Ça a une épaisseur. Et donc ils ont apparemment introduit une nouvelle technologie. Moi, j'avais jamais entendu parler comme ça de double couche OLED, en tout cas pas sur les télés, etc. Et donc ça, c'est quand même assez remarquable, cette finesse de l'iPad Pro et cet écran qui, après avec la keynote, c'était difficile de s'en rendre compte parce que les photos, elles sont toujours très belles, hein, quand c'est ces ouais. présentations vidéo. Mais je pense qu'il faudra vraiment le voir sur pièce.
Oui, on est sur 5,3 mm d'épaisseur pour l'iPad Pro 11 pouces et 5,1
pour le 12, c'est 5,1 pour le 13 pouces. Le 13 pouces,
c'est
très
fin.
Oui, c'est ça.
Plus c'est grand, plus c'est fin.
5,3 sur le 11 pouces
OLED
et 5,1 sur le 13 pouces, qui en fait le produit le plus fin qu'Apple ait jamais proposé.
Ouais.
plus fin qu'un iPod.
C'est étonnant, c'est plus fin qu'un iPhone.
C'est plus fin qu'un iPod Nano. C'est un peu faux parce que l'Apple précise. Card, la carte de paiement, je pense qu'elle est
fine. C'est vrai.
Il faut pas nous mentir. Hein.
Très juste, Fred.
Et alors, je ne sais pas si Élie, tu nous avais envoyé un lien vers une toute première vidéo là de quelqu'un qui montrait Brian Tang, un YouTuber bien connu du monde Apple, qui nous montrait l'iPad Pro. Moi, je pense qu'on s'achemine vers un vrai problème. Du coup, c'est que l'USB-C va devenir trop gros.
On est à la limite. Hein.
Ouais. Et donc, il va y avoir... qu'est-ce qui va se passer là? Parce que du coup, le connecteur qui a été remplacé par l'USB-C, donc le Lightning d'abord, il était plus fin. C'était mieux.
Ouais, c'est vrai.
Il n'avait pas les mêmes caractéristiques de vitesse, etc. Mais on est juste à la limite, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, évidemment, l'iPad Pro, mais il l'avait déjà, utilise de l'USB-C avec Thunderbolt 4, c'est-à-dire que, et en charge et en transfert, il est beaucoup plus rapide que l'USB-C de l'iPad Air ou du 10 pouces 9.
Intéressant. Est-ce que vous avez autre chose à nous préciser sur ces iPad Pro? Peut-être qu'on va aussi parler de la dispo et des prix, parce que on s'attendait à des iPad Pro très chers à cause des écrans, notamment. Est-ce que c'est plutôt une bonne surprise ou pas, les prix?
C'est pas si mal, en fait.
C'est
pas si mal. Cela dit, je m'aperçois que sur l'article, il y a une petite faute, il va falloir que je corrige. Si on voulait faire le grand écart, le premier iPad Air M2 11 pouces avec 128 gigas de stockage commence à 719 €. D'accord. Et si vous voulez aller jusqu'au bout à l'iPad Pro M4 13 pouces avec 2 téraoctets et cellulaire, on est à 3029 €. Je pense que c'est le premier iPad qui coûte plus de 3000 € en France.
Ouais. Excellent. Voilà.
Je trouve ça assez marrant. on sait les prix, etc. Bon, c'est une machine complètement dingue, hein, mais voilà, donc plus de 3000 € si on veut.
Ouais, Élie, je pose la question, est-ce qu'on a intérêt à acheter un iPad Pro ou un MacBook Pro aujourd'hui?
Alors, c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'ai un de mes commerciaux qui a appelé immédiatement après la keynote en disant « j'ai fait les calculs, je pense qu'aujourd'hui un client a tout intérêt à acheter un iPad Pro plutôt qu'un MacBook Pro 14 d'entrée de gamme, qui est en M3 lui, hein, donc M3 de base. » Parce qu'il dit « avec les caractéristiques du Pro, c'est plus intéressant. » Alors, il faudrait faire le calcul suivant la taille, mais quand même, il démarre en 256 Go, ce qui est quand même bien, et il faudrait lui rajouter le Magic Keyboard, et après on tombe sur un produit qui peut être inférieur en prix à celui d'un MacBook Pro 14, le modèle M3, hein, pas M3 Pro, M3 Max, bien sûr, mais encore une fois, c'est un iPad, c'est pas un Mac, donc en fonction de l'utilisation, c'est pas un problème de prix, c'est un problème d'usage.
Sur les iPad Air, qu'est-ce qu'on peut dire, à part insister sur l'arrivée d'un nouveau modèle, donc un 13 pouces à plus grand écran? On s'y attendait. Grosso modo, l'iPad Air est presque deux fois moins cher que l'iPad Pro.
969, quand même, le premier modèle en 13 pouces, hein, bien sûr.
Ouais. Et combien pour l'iPad Pro?
Pour le 1500. Pro,
1560. 1500,
Mais il est fait pour les étudiants, éventuellement les lycéens en terminale. La présentation avec la bibliothèque qui s'ouvre, de type, on se croirait dans une bibliothèque universitaire, et quand, je ne me souviens plus de l'exécutif d'Apple qui fait la présentation, il pousse la bibliothèque C4 dans un film d'espionnage, et on tombe sur le labo secret. C'est typiquement fait pour l'éducation, et la baisse de prix de l'iPad normal est fait pour le rendre compétitif. Alors, je vais mettre Fabrice en boule, mais il faut voir à quoi l'iPad 10 se compare, ce que propose la concurrence. Et là, on remet d'entrée l'iPad normal, le 10, à niveau pour le marché de l'éducation du collège, éventuellement du primaire. Mais là, le nouveau Apple Pencil Pro et l'iPad Air, c'est un truc génial pour les étudiants et puis les élèves de terminale dans les disciplines artistiques. Enfin,
Vas-y, Fabrice.
Gilles, il est extraordinaire parce qu'il mélange deux trucs. Il te dit que l'iPad Air, c'est formidable pour les étudiants. Alors seulement, à mon avis, pour les séries télé qui se passent à Beverly Hills, quoi. et après, il te dit, mais parce que vous comprenez, c'est pas cher, l'iPad 10. Donc, on parle de quel iPad, en fait?
On parle de la gamme inférieure, la gamme pas pro, qui est pour l'éducation. Et l'iPad Pro, qui est là fait pour les professionnels et les créatifs. On va venir peut-être sur les usages, mais ce qu'ils ont montré est assez époustouflant quand on fait pour des équipes qui sont en mobilité, par exemple.
Non mais Gilles,
enfin, ils insistent bien sur le fait.
Excuse-moi Gilles, mais on peut pas conseiller l'iPad 10. Je suis pas d'accord. Mais même à 410 euros, c'est beaucoup. Ça reste. De toute façon, même offert, ce serait trop cher.
C'est pas vrai.
Et franchement, dans l'univers Android, tu mets 400 euros dans une tablette, t'as un sacré truc hein, aujourd'hui. Hein. Va voir chez Samsung, chez Lenovo, etc. Chez Huawei, t'as des très très bonnes tablettes. Après, c'est pas des iPads, c'est sûr, mais... Les seules tablettes là sur lesquelles on peut discuter, c'est les nouvelles, parce que l'iPad mini est tellement vieux, c'est pas possible. L'iPad 10, on sait tout le mal qu'on en a dit et il a pas changé, donc voilà, pour moi il est hors course. Ça veut dire que finalement le premier prix pour un iPad moderne, c'est l'iPad Air 11 pouces, c'est ça?
Oui,
719. Donc c'est quoi le prix d'entrée?
719.
Ouais. Bah ouais.
Voilà. Avec un doublement, c'est un doublement de la RAM hein, pour tous les modèles. C'est ça. Ça c'est bienvenu.
Oui.
Voilà, c'est bienvenu.
128 gigas.
On sait que le sujet est délicat chez Apple, donc
voilà.
Donc, on prend
le SSD. C'est niable en SSD.
Ouais. Par contre, il y a un point, puisqu'on parlait de mobilité, un iPad aujourd'hui, donc les nouveaux, aussi bien le Air que le Pro, c'est 10 heures d'autonomie, 9 heures en navigation web. Donc on est à la moitié de ce que fait un MacBook Air, qui n'est pas cher, voire un MacBook Pro, parce que là on parle pour un étudiant, 9 heures, ça ne tient pas une journée complète avec des pauses et un peu de révision, alors qu'avec son MacBook Air, il est tranquille. Hein.
Vas-y Fred, j'ai un détail à vous préciser après.
Alors il faut quand même noter que ils n'ont pas réglé effectivement l'entrée de gamme, c'est toujours utile, pas forcément pour un utilisateur comme nous ou un client standard, mais pour les entreprises qui commandent des palettes, ils ont besoin d'avoir des iPads d'entrée de gamme avec des prix assez forts, même si c'est encore plus bas que ce qui est affiché, et c'est du volume et ils n'ont pas du tout la même démarche rationnelle que nous. Ils achètent un prix, ils ont un budget, basta. Après le reste, ils s'en foutent un petit peu quand c'est pour équiper des serveurs, etc. Donc ils ont quand même augmenté la taille, ça c'était bienvenu parce que c'était quand même le minimum. À être à 64 gigas, c'était un petit peu compliqué. Il faut noter que effectivement l'autonomie n'est pas améliorée, mais ils ont fait le choix de la finesse. Ils pensent que la finesse est plus importante que l'autonomie. Mais c'est un choix, hein, pourquoi pas. Effectivement, je voudrais le voir en main, ça doit être quand même assez impressionnant, parce que les autres tablettes n'ont pas, ils ne sont pas forcément en alu. Le poids est léger, je trouvais que les tablettes telles quelles, ils parlaient de tablettes en dessous de 500 grammes, j'avais noté 400 et quelques grammes, donc ça doit être assez impressionnant, même à 500 grammes, d'avoir un 13 pouces comme ça. Et ce que je note aussi beaucoup, c'est que le Pencil Pro est compatible avec les deux, il n'y a plus cette segmentation artificielle qui embêtait tout le monde, pour être poli, et qui faisait que... Alors, il y a deux trucs qui deux segments marketing inutiles qui font travailler peut-être les mauvais marketeurs, qui étaient la taille de l'écran, qui est tombé avec l'iPad Air. On peut avoir un 15 pouces maintenant depuis l'été dernier avec un MacBook Air qui effectivement supporte le 15 pouces, alors qu'avant on avait 13 pouces en MacBook Air. Et puis si on voulait un grand écran, il fallait acheter un MacBook Pro 16 pouces pour avoir un peu plus grand. Donc ce côté je veux un grand écran, et d'ailleurs la collègue du product manager de l'iPad le dit, si vous voulez un grand écran sans rentrer dans le Pro, vous pouvez maintenant le faire, et en plus vous pouvez utiliser le Pencil Pro dessus. Donc ça, je trouve que c'est quand même alors bien sûr on perd la vitesse du Thunderbolt, on perd un écran OLED, mais je trouve que c'est intéressant quand même de plus avoir à passer sur le segment Pro pour avoir ces outils là. Donc c'est vrai que pour l'éducation c'est très bien. Ce que je regrette, si vous avez vu les prix, c'est qu'on passe de 700 à 1000 euros juste en augmentant de 12 pouces. Ça, je trouve que là, ils ont un peu déliré.
De 2 pouces.
Ou alors, je me suis trompé. Mais on est à 719 pour le 11 pouces. Et on passe à 989 euros, un truc comme ça.
969.
Sur le 12 pouces, Fabrice. Ouais. Donc, ça fait presque 300 euros, quoi. Enfin, on va dire 250. Oui, et là, je trouve que, honnêtement, ils auraient pu faire un effort un peu plus sympathique. Donc, ouais. Voilà.
Juste une parenthèse, vous parliez de l'autonomie de Deezer. Il se trouve que c'était déjà l'autonomie du tout premier iPad en 2010.
Oui, oui.
Alors, il était beaucoup moins fin, hein, évidemment. Mais il y a une sorte de constante sur les iPads. Apple se contente de cette autonomie et privilégie plutôt le design, effectivement.
Oui, mais on est passé à des processeurs Apple. Le premier iPad n'avait pas un processeur économe en énergie. Mais c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus vite.
Ah, il avait déjà un processeur Apple.
Oui,
c'était le A4.
Pardon, oui. Oui, tu as raison. Mais pas un processeur.
Le poids pour un truc qu'on trimballe à la main pendant plusieurs heures, le poids est extrêmement important. On en reparlera tout à l'heure, mais le poids du premier iPad, passer la divine surprise, commençait à devenir un souci, en tout cas une composante quoi,
c'est vrai.
De la réflexion.
Bon, donc la mauvaise nouvelle, c'est quand même le non-renouvellement de l'iPad standard, parce que ça reste effectivement le moins cher et le produit d'appel. Moi, ça continue de m'embêter que des mauvais iPads partent dans les administrations, dans certaines écoles, etc. Je trouve ça dommage, mais apparemment, ça gêne pas Apple, donc tant mieux pour eux.
C'est une question de disponibilité, je crois, de ressources matérielles et de ressources en ingénierie. Ce passage... On va l'évoquer avec Frédéric qui doit avoir un avis là-dessus, mais on était au milieu du guet.
C'est quoi cette histoire de pénurie d'ingénieurs là, pour faire un 11e iPad ?
Parce que l'essentiel de la ressource a été mise sur le...
Sur l'Apple Car ?
Non. Je vais y arriver. Tu fais le mauvais esprit. Benjamin, c'est du mauvais karma, tu verras. A été mis sur le développement du à marche forcée. Le M4 six mois avant le timing normal, et on était passé. Il fallait faire quelque chose par rapport à la concurrence, je crois. Et donc là, on a marqué les esprits en disant. Voilà ce que peut faire une tablette, à vous de jouer maintenant, et une tablette professionnelle. Du coup, le reste est passé un petit peu passé à l'as, pour parler de façon familière, et du coup, le reste de la gamme est passé un petit peu par pertes et profits. C'est comme ça que que je l'analyse, parce qu'on est... Ouais. On a 6 mois d'avance ou 6 mois de retard avec ce M4, avec cet iPad Pro.
Et Gilles, tu sais ce qu'on fait quand on a éventuellement une pénurie comme ça, c'est qu'on vire un mauvais produit et on garde un bon produit au catalogue un peu plus longtemps. Donc, par exemple, on garde l'iPad Air M1 qui est très bien, qui est bien mieux que l'iPad 10e génération. Mmh. Et on baisse son prix aussi, et tout le monde est content, y compris moi, ce qui est important quand même.
C'est important, mais il n'est pas marketé iPad, ton iPad Air.
Oui, mais on s'en fout. La marque ouais. iPad, du coup, n'a plus aucun sens dans ce cas-là. Et on pourrait dire aussi que la marque iPad Air a un vrai problème, c'est que l'iPad Air, qui était le synonyme de légèreté, c'est plus lourd que l'iPad Pro.
C'est vrai. T'as tout à fait raison. Ellie, l'évolution des prix, elle va dans quel sens pour ces deux iPads, ces deux familles d'iPad?
Alors, aux États-Unis, il y a une légère baisse. En France, il y a une légère hausse. Pas une hausse énorme, hein, mais une hausse d'à peu près une centaine d'euros.
Mais pourquoi?
Et parce qu'à mon avis, il doit y avoir des choses comme la taxe sur la copie privée, la TVA, des choses.
Bon, Apple la payait déjà sur les anciens, donc pourquoi?
Oui, oui. Ben, c'est comme les produits Adobe, entre les prix américains et les prix français. Certaines sociétés américaines ont tendance à prendre les Européens pour des vaches à lait ou des gens
en viande. Vas-y Gilles, il t'a tendu la perche là, tu peux pas rater ça quand même.
Alors, il y a peut-être une histoire contraire sur les échanges internationaux. Le Foreign Exchange Committee dans les réunions trimestrielles, j'ai pas regardé le taux de change actuel entre le dollar et l'euro, mais on n'a pas le différentiel énorme qu'on a pu avoir au moment de la hausse qui vous avez fait faire des gorges chaudes et qui en fait avait une explication tout à fait rationnelle, autre que la cupidité notoire et rédhibitoire des actionnaires d'Apple. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, peut-être.
Gilles, les prix baissent aux US, ils devraient à minima rester identiques en France.
Ça dépend si le taux de change est défavorable.
Voilà, c'est bon. Donc nous avons évoqué le taux de change, nous pouvons donc passer au sujet suivant. Merci, je ne voulais pas que Gilles rate ça, c'était important.
Juste un petit point, parce que le marketing Apple est quand même assez fort dans tous les domaines. Ouais. En ce qui concerne l'iPad 10e génération, le site Apple montre qu'il a baissé de 150 euros, sauf qu'il était en promotion dans tous les magasins français. Depuis un moment déjà, depuis quelques mois. Et donc, il a baissé de 10 euros en réalité par rapport à la promotion. Donc, Apple avait bien préparé le coup, très fort.
Excellent.
Et deuxième coup, encore plus fort, ils ont laissé fuiter sur tous les sites du monde le fait que le passage à l'OLED allait faire monter le prix des iPad Pro de 200 à 300 euros. Donc, quand on voit une centaine d'euros, on se dit « Ah, ouf ! Ah, que 100 euros, ça va !»
Super.
C'est pas trop fort.
C'est pas faux. Bon Fred, alors ce M4, ça a quand même été la surprise de l'après-midi et peut-être même de l'année, parce que franchement, on s'attendait pas à ce que la nouvelle génération débarque si tôt. D'abord, avant d'entrer dans les caractéristiques de la bête, comment est-ce que tu expliques cet empressement d'Apple à sortir le M4 six mois après le M3 quand même, 6 mois et 8 jours pour être précis?
Ouais, alors moi j'y croyais pas non plus, j'y croyais pas parce que c'était pas dans la stratégie d'Apple de le faire, de présenter comme ça une nouvelle génération un petit peu en catimini parce qu'ils ont pas beaucoup détaillé. Ce que je pense c'est ça arrive souvent, c'est quand Apple n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est le processus industriel qui l'impose. Parce qu'il n'a pas encore amorti beaucoup le M3. Sortir le M4 sur l'iPad, ceux qui ont acheté en octobre dernier, d'ailleurs, ce n'est pas un processeur, c'était la première fois qu'on sortait les trois processeurs en même temps, le 30 octobre 2023. On a sorti le M3, le M3 Pro et le M3 Max en même temps. Donc, on s'attendait à avoir un M3 Ultra, peut-être à la WWDC, mais pas un M4, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Donc, je pense qu'Apple n'a pas eu le choix, tout simplement parce que le processus de production TSMC, c'est-à-dire la deuxième génération qu'on appelle N3E, 3 nanomètres E, est aboutie. Il est opérationnel. Les chaînes de production permettent de simplifier la fabrication. Je pense que ça coûte moins cher. ça coûte moins cher, on a un meilleur rendement avec une plus grande efficacité, ils en ont parlé énergétique, et du coup ils avaient deux possibilités, continuer à vendre du M3 sur de l'iPad avec un process qui fonctionne mais qui est moins rentable, soit partir sur le M4 parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de faire du 3 nano deuxième génération que du premier. Donc ça doit être des savants calculs entre le prix, le rendement et puis aussi les lignes de fabrication, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment TSMC peut pas avoir deux lignes de fabrication 3 nano. La deuxième génération qui est vraiment l'avenir, c'est ce qu'ils ont présenté avec le M4, et puis l'ancienne génération. Donc ils ont sorti, ils voulaient je pense être les premiers à sortir le 3 nano avec l'iPhone et ses Mac, ils l'ont fait en octobre, en sachant très bien que le 3E arrivait de suite, mais il n'était pas encore disponible. Donc là, il était disponible. Et je pense qu'ils ont dit bon ben on y va parce que en termes de rendement ça va permettre de gérer la ligne. Cette ligne là c'est les premiers à l'utiliser. Hein. Il y a personne, c'est sous-entendu, il y a personne qui utilise actuellement dans le monde le processus N3E de TSMC.
Mais pourquoi donc, l'appeler ils voulaient... M4
ils ont Mais est-ce que c'est vraiment M3X le M4 tel qu'on l'attendait
le truc.
Ou est-ce Alors, que c'est un M3
ils l'ont appelé M4 plus... parce qu'il y a des choses qui changent quand même. Il y a quand même des choses qui changent. Ils ont, alors, mais le problème, c'est que la keynote n'est pas une keynote très processeur. Donc, ça a été fait en catimini. Ce que j'ai noté du M4, c'est qu'effectivement, en termes de, par rapport au M3, ils ont rajouté un peu plus 3 milliards de processeurs. Hein, j'ai calculé, ça faisait, ça faisait combien? 12% de transistors, pardon, en plus. Donc, 12%. Pour un processus qui est le même hein, que le M3, mais un peu plus optimisé, c'est quand même pas mal. Hein, ça fait un peu plus de 10%. Donc, on a 3 milliards. On passe de 25 milliards de transistors pour le M3 à 28 milliards de transistors. Donc, on a quand même plus de silicium pour faire plus de choses. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent on a fait une nouvelle architecture de GPU, de CPU. Donc, ils ont rajouté 2 cœurs performance en plus. Donc on passe quand même, avant, vous vous rappelez, on avait 4 et 4, 4 performances, ouais, ouais. 4 efficients, les cœurs économes. Ouais. Et là, on passe de 6 cœurs vraiment très performants. Donc pour rappel, c'est des cœurs qui sont très gros. Hein. Vous savez, les cœurs performances, ils font 3 fois la taille des petits cœurs ou 4 fois la taille des petits cœurs. Hein. Donc rajouter 2 cœurs de plus, c'est pas anodin. Quand on passe de 4, donc c'est des très gros cœurs, on passe de 4 à 6, c'est 50% de cœurs CPU en plus. Ouais, et d'ailleurs, ils ont vachement insisté sur le fait que c'est vraiment très rapide. Le problème, c'est que c'est dans un format très... très compact, sans ventilation, donc il faudra voir après quand ça va arriver sur les Mac, parce que ça aussi, ça va être un problème, c'est que maintenant, il va falloir le déployer ailleurs, parce que les gens vont pas forcément acheter des MacBooks en M3, sachant que maintenant, il y a le M4, vous voyez,
exactement.
En termes de...
Oui.
C'est un peu compliqué pour eux, donc vraiment, ils n'ont pas eu le choix.
On va parler de la stratégie après.
La stratégie n'est pas facile pour eux. Ouais. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent sûrement une nouvelle fréquence de mémoire, mais une nouvelle mémoire qu'on appelle la LPDDR5X, qui permet de monter effectivement en fréquence et d'être tout aussi économe. Et donc, du coup, on passe de 100 gigaoctets d'accès mémoire à 120.
Oui.
Alors ça, c'est marqué quand on regarde les spécifications. Ils disent que l'accès à mémoire est plus rapide, etc. Donc, passer de 100 à 120, ben, c'est 20% d'accès mémoire. C'est un goulot d'étranglement, hein, la mémoire.
C'est
gigaoctets. En fait, gigaoctets. Ils appellent ça GB avec un grand B majuscule, c'est pour byte.
Des gigabytes, ok.
Voilà, un petit B, c'est bit, donc 0,1. Et quand vous avez un grand B, c'est octet, c'est 8 bits ou 1 octet. Voilà. Donc, c'est très, très rapide, 120, c'est pas mal. Donc, ça, plus la partie GPU qui évolue un petit peu. La partie GPU, c'est une nouvelle génération. En fait, c'est pas vraiment une nouvelle génération. Je pense qu'ils ont un petit peu amélioré la partie GPU, mais à mon avis, ça la marge. Et puis le Neural Engine, alors c'est 16 et 16, donc ça veut rien dire le nombre de cœurs. Je pense que les cœurs sont un peu plus rapides. Ils ont peut-être un peu plus de mémoire. Et ils ont amélioré. J'ai pas noté les anciens à combien de teraflops ils étaient, mais apparemment, ils ont quand même amélioré. Mais c'est une augmentation légère, en fait.
J'ai noté 38 trillions d'opérations par seconde.
Voilà. Et avant, je ne sais plus, je crois qu'on était à... Je ne me rappelle pas, en fait. En plus, c'est un petit peu difficile à comparer parce qu'il aurait fallu comparer Il y a des histoires de fréquences. Il aurait fa... On compare ça avec un Mac, un M3 sur un Mac qui n'a pas forcément les mêmes fréquences, etc. Donc, mais on va dire que c'est aussi une amélioration sans bouleverser pas mal de trucs. Et les GPU, y a le nombre, vous le savez, ce qui est important, c'est qu'on a sauté le M3. Et quand même, le M3, comme le N4, introduit beaucoup de choses en hardware. Le mesh shading, qui permet d'avoir des formes beaucoup plus détaillées, le ray tracing en hardware qui permet quand même d'économiser énormément de ressources. Avant c'était fait en logiciel, et puis l'upscaling, le fait de faire des choses en résolution relativement réduite et puis de pouvoir l'agrandir sans perdre de qualité. Donc il y a quand même pas mal de choses qui arrivent en sautant le M3. Donc c'est vrai que le M4 se justifie quand même par les nouveaux CPU, par cet accès mémoire qui est meilleur, le fait d'avoir plus de cœur, le fait d'avoir sûrement quelques petites choses qu'on n'a pas vues parce qu'ils ont été très vite, et puis parce que le marketing, il faut quand même vendre un M4. On peut pas dire M3 bis, M3 je sais pas quoi, vous voyez, c'est un peu délicat.
Bah sur l'iPad, ils l'ont déjà fait, hein, des processeurs Z ou X, etc. Donc, parce que la question, c'est est-ce qu'il faut le marketer comme ça, ou est-ce qu'on peut se permettre justement de mettre une petite lettre à la fin du processeur et garder la stratégie qui est annonce iPhone suivie d'annonce Mac, etc. Parce que là, on est dans une période où il y a des utilisateurs qui l'ont acheté il y a 6 mois ou moins en M3 et qui vont se dire c'est quoi cette arnaque. Et puis il y a des gens qui voulaient peut-être acheter des produits pour avant l'été ou à la rentrée pour leurs enfants et qui vont se dire non mais attendez, on va attendre le M4, il existe, il est là. Donc le MacBook Air, on le veut en M4, le MacBook Pro, on le veut en M4 Pro. Bon, l'iPhone, c'est différent parce qu'on sait que le processeur va changer et c'est toujours comme ça. Mais encore une fois, l'iPhone ne sera pas le fleuron de la gamme qui inaugure la nouvelle génération de processeurs. Et ça...
Ça, c'est vraiment nouveau. Hein.
Ouais, mais ça peut être un problème.
Mais l'iPhone n'est pas en... Il est toujours en A quelque chose, il n'est pas en M.
Oui,
c'est un peu la nuance qu'on peut apporter.
Sont basés sur des
A. on garde la même finesse de gravure, en fait. Même s'il y a une amélioration dans la gestion de la mémoire et la façon de graver les puces sur cette nouvelle génération de puces N3E, mais il n'empêche, l'iPhone ne peut pas servir de base de comparaison, et on est déjà, on n'est pas 6 mois, mais on est bien 4 ou 5 mois après le lancement de la gamme MacBook Air, MacBook Pro. Donc, on sait que les gammes évoluent au fur et à mesure
mois, c'est trop peu, Gilles.
Du temps. C'est quelque
Apple
chose...
Apple ne l'a jamais fait. C'est 12 à 18 mois, une gamme. Hein. Ils risquent de s'aliéner une partie de leurs clients fidèles, hein, je t'assure. Hein.
Mais ce n'est pas les mêmes produits. Hein.
Non mais ce qu'Élie veut dire, c'est que jusqu'à maintenant, le premier appareil qui bénéficiait d'une nouvelle génération de processeurs, c'était l'iPhone. Et après, ce processeur était décliné en version Mac, mais c'était la même génération qui était inaugurée par l'iPhone. Alors là, quelque part, l'iPad obtient une forme de priorité et a la nouvelle génération de processeurs avant l'iPhone et avant les Mac. Ouais, Fabrice.
Je pense qu'ils subissent aussi un effet ciseau qui est que les iPads sont mis à jour, sont renouvelés moins souvent et que ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait. Il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et pour assurer la longévité d'un iPad qui ne va donc pas être renouvelé avant 18 mois, je pense qu'ils se sont un peu, pour reprendre l'expression qu'ils avaient utilisée pour le MacBook Pro en forme de poubelle de table, hein, ils se sont retrouvés dans le coin de la pièce le Mac Pro, pardon, mais je ne sais plus ce que j'ai dit, après avoir peint le reste de la pièce. Quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient coincés. Il fallait qu'ils fassent quelque chose pour que l'iPad Pro soit... valable pendant 18 mois.
Désirable, ouais.
Voilà.
Fred ?
Ouais, ce qui se passe, c'est que quand même, quand vous avez cette industrie, il y a le marketing et puis après, il y a l'industrie. Le marketing ne peut pas décider de ce que l'industrie peut faire ou pas faire, etc. Et tout en étant numéro un à chaque fois sur les lignes de production, Apple veut réserver les lignes de production. Si le N3E est disponible chez TSMC, il faut le mettre au point. Il vaut mieux le faire avec Apple qu'avec quelqu'un d'autre. Et on ne va pas demander à TSMC d'attendre. Ça, ce n'est pas possible. Donc, même s'il y a des cohérences, etc., C'est à un moment, il y a l'industrie impose. C'est, vous savez, une usine, c'est 20 milliards, c'est 20-25 milliards de dollars, hein, une usine, hein, avec une chaîne de production ou deux. Donc c'est colossal. Donc là, le marketing, ils peuvent faire des ce qu'ils veulent, etc. De toute façon, Apple n'est pas forcément cohérent dans ses gammes. Ils sont pas à ça près. L'autre point que je voulais noter, c'est que on va probablement avoir un retour un petit peu caché du hardware, même si j'adore ça, au profit de l'IA. On est habitué, on est à la quatrième génération Apple Silicon. On est quand même habitué, ça fait un peu moins rêver. Les gens, enfin, c'est peut-être un gramme, ils sont habitués à avoir des super autonomies sur leur MacBook. Ils ont acheté des M1, ils sont passés en M3, etc. Bon, ça ronronne ce qu'ils attendent. Et je pense que c'est ça qui va faire oublier un petit peu les histoires de M3, M4. C'est qu'il va y avoir de l'IA qui va arriver. Et là, Apple doit jouer la chose bien pour dire aux gens, vous avez acheté un M3, vous avez des super GPU, parce que l'IA, elle se base quand même sur le Neural Engine, mais surtout sur les GPU. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les gros calculs se font sur des GPU, hein. Souvent, le Neural Engine n'est pas toujours utilisé en fonction des modèles. Et donc, il y aura quand même des choses à dire beaucoup sur même les processeurs de M3. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir continuer industriellement, c'est ça qui va être intéressant, de continuer à graver du M3 avec les anciennes chaînes de fabrication, avec des rendements qui sont pas forcément aussi bons parce que c'est plus complexe, il y a des histoires de couches qui sont réduites avec le N3E. Et donc je pense qu'il y a la possibilité qu'on voit assez vite, d'ici la fin de l'année, arriver le M4, le M4 Pro, le M4, et tant pis pour les anciens. Mais si les anciens acheteurs, même s'ils voient ça arriver un an après, mais voient qu'il y a de l'IA, que macOS tourne, que leur hardware est pris en compte avec ces nouvelles fonctionnalités, ça, je pense que ça fera passer la pilule.
On verra. Hein. Moi, j'ai l'impression que Apple a réagi par rapport aux nouvelles du marché et aux actionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont vu que l'iPad s'effondrait un tout petit peu en vente. Donc, ils relookent l'iPad, les ventes vont remonter. Mais si dans le prochain trimestre ou dans les deux prochains trimestres, les ventes des iPhone ou des Mac baissent pour une raison illogique, mais parce que les clients décident, hein, donc avec leur illogisme, mais c'est eux qui ont le portefeuille, et ben ça risque d'être plus important pour Apple qu'une baisse des ventes d'iPad, hein, parce que ce qui fait vivre Apple, c'est l'iPhone et les Mac, et les services bien entendu, hein, mais et ce qui donne une impression un tout petit peu, et c'est très bizarre parce que ils les renouvellent pas très souvent. C'est des produits qui sont en développement depuis longtemps, et ces produits vont arriver la semaine prochaine avec un système d'exploitation qui n'est pas le bon. Mark Gurman en parlait après la keynote. Il arrive en 17.4 dans les boîtes en disant mais les produits sont faits pour fonctionner à partir de 17.5, ce qui veut dire qu'ils doivent sortir une mise à jour très vite. Ou alors, ils vont avoir une nouvelle machine, un nouveau processeur. Évidemment, ça va marcher, ça va s'allumer. Mais les utilisateurs ne pourront pas vraiment en profiter tant qu'ils n'ont pas la nouvelle version du système qui n'est pas prête. Pourquoi ? C'est pas logique.
Ouais. Oh, mais ça va être prêt, quand, la date de livraison des
c'est
iPads.
C'est quand la dispo, d'ailleurs ? On l'a pas donné.
C'est le 15 mai, justement. C'est le 15 mai, donc ce sera la date de dispo d'iPadOS 17.5 et de iOS 17.5, etc.
Bien sûr.
Ce sera le même jour, a priori.
Mais pour prolonger ce que disait Fred, c'est que normalement, cette nouvelle génération de gravure N3 était prévue pour le deuxième semestre. Et les concurrents d'Apple attendaient ça avec impatience pour pouvoir respirer. Et ce qui est possible, c'est que TSMC ait été plus vite, que les processeurs aient été dispo plus tôt, et qu'à ce moment-là, c'est ce qui est décidé Apple à passer du M3 au M4 sur les lignes d'assemblage de Foxconn ou je ne sais quel assembleur qui fait les iPads pour son compte.
En tout cas, on attendait ces iPads depuis un moment. On a une explication sur le fait qu'ils arrivent avec du retard. C'est que Apple attendait l'arrivée de ces processeurs, Fred.
Ils attendaient l'arrivée de ces processeurs. Et puis, il faut aussi noter une chose, c'est que plus tôt vous commencez, quand vous êtes le premier à fabriquer ces puces, vous optimiser. Hein. C'est pas quelque chose qui est binaire, je sais faire ou je sais pas faire. C'est qu'ils vont ouvrir la ligne de production avec des volumes. L'iPad Pro, c'est pas des gros volumes. Hein. C'est pas comme les MacBook, hein, les MacBook Air. Donc, c'est des processus qui sont peut-être un peu plus compliqués que quand on était en 5 nanomètres, qui était un long processus, première, deuxième, troisième, quatrième génération avec le 4 nano, le 4 nano qui était en fait un 5. Là, on arrive sur un nouveau processus et donc, je pense que les volumes sont pas trop gros. Donc, ils vont vraiment améliorer leur processus pour avoir le rendement le plus efficace et couper l'herbe sous le pied des autres concurrents qui eux vont arriver avec du 3 nano ils vont arriver directement à la deuxième génération de TSMC. Parce que la première génération, elle était pro Apple, elle était juste pour Apple. Donc il faut vraiment qu'ils aient un N3E vraiment super efficace, super rentable. Et je pense je pense qu'industriellement, ils avaient vraiment pas le choix. Et quelque part, commencer avec l'iPad Pro, c'est pas délirant, c'est pas des gros volumes. Ça permet de se faire la main, d'optimiser tout ça et d'être prêt peut-être pour l'iPhone, hein, le futur iPhone. Les puces là vont être fabriquées cet été, donc ça va commencer en juillet en général. Donc c'est dans 2 mois. Donc c'est pas mal en fait industriellement. C'est pas voilà, c'est pas si bête que ça. Et là, les volumes de l'iPhone, je vous garantis que c'est autre chose que l'iPad.
C'est autre chose.
Voilà.
Est-ce que vous avez entendu comme moi une évocation de l'univers PC et de la puissance des puces des PC portables?
J'ai cru
voir une allusion au Snapdragon X Elite de Qualcomm, dont on parle beaucoup en ce moment. Apple ne l'a pas cité, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait de la comparaison dans l'air.
Il faut prendre le PC entre le MacBook Air 13 et 15 pouces qui sont les ultra portables les plus vendus et maintenant l'iPad Pro ou l'iPad Air qui ont vocation à je vais reprendre l'image de la serpillière, hein, mais de serrer de l'autre côté et essayer d'étouffer les fabricants de PC dans les deux bouts de la chaîne en fait. C'est comme ça que j'ai lu la façon dont c'était présenté.
Je crois pas qu'ils aient fait référence directe à Snapdragon parce qu'il n'y a pas de machine encore.
Non, pas direct, mais
vendu. Ils ont éraflé un peu en disant on a amélioré notre Neural Engine que l'industrie appelle les NPU.
Oui.
Et en disant, alors eux, ils commencent tout juste à mettre des NPU. Nous, ça fait 7 ans qu'on le met. Sous-entendu, ils nous font bien rigoler.
Oui, mais autre exemple, tu as raison, Fabrice, tu as raison.
Ouais. Ça, c'était vraiment intéressant. Et je crois qu'ils ont parlé de ça aussi au niveau de la consommation énergétique, parce qu'un des trucs du M4 qu'ils ont dit, c'était que c'était en gros 2 ou 4 fois plus puissant selon les calculs, machin, mais en consommant 2 fois moins.
Que les PC
avec, c'était 2 fois moins que le M2 et 4 fois moins que les PC, c'est ça qu'ils ont dit justement. Et c'était intéressant. Et au niveau du dégagement de chaleur, ils ont parlé de...
C'est à ça que je pensais.
Voilà. Ils ont parlé de feuilles de graphite à l'intérieur des iPad Pro pour diffuser la chaleur et aussi d'un alliage de cuivre dans le logo Apple pour la chaleur s'échappe un peu. Ça rejoint quand même, il me semble... C'est rigolo, mais ça rejoint ce que disait Fred, justement, c'est que malgré tout, ça doit chauffer un peu et que ce n'est pas dans l'iPad Pro qu'on va trouver les meilleures performances du M4. Je ne parle pas même pas des M4 Pro, M4 Max potentiellement qui vont arriver, hein, mais qu'il va sûrement y avoir un peu de temps en temps, quand on va lancer des rendus, etc., sur l'iPad Pro, il va y avoir du throttling, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ça va baisser un peu en fréquence parce que ça va chauffer là-dedans, hein, dans cette caisse qui est très très fine, ça va chauffer rapidement. Et puis alors, je me demandais un truc, c'est que c'est la même puce pour les deux iPad Pro, voilà, mais dans l'iPad Pro 11 pouces, il y a une couche de LED, dans l'iPad Pro 13 pouces, comme on l'a indiqué au début, il y a 2 couches de LED. Est-ce que vous ne pensez pas que l'iPad Pro 13 pouces va être, dans certains cas, légèrement moins puissant parce qu'il a plus d'écran à gérer. Et c'est déjà un truc qui est arrivé avec l'iPad 3, qui était le premier iPad Retina, et qui n'a duré que 6 mois, justement, qui a été remplacé très vite parce que l'écran Retina demandait tellement de puissance que les performances graphiques de l'iPad 3 étaient ridicules et qu'ils l'ont vite changé.
Ben, je pense pas, parce que l'iPad gère un écran à la base. Rarement on connecte d'autres choses, alors que une machine comme un MacBook Pro, d'office, on va lui connecter un écran quasiment. Donc je pense que le M4 doit être capable de gérer un écran, même si la résolution, je ne l'ai plus en tête, mais c'est une résolution qui est assez impressionnante. Hein, mais sur un Pro, ça donne quoi la résolution? Je crois que c'est la même d'ailleurs dans les deux cas.
C'est la même qu'avant, oui.
Donc, mais c'est 2700 par. Je cherche la résolution.
Mais c'est pour faire référence au capillotractage qu'évoquait aussi Gilles au début sur un autre sujet. Mais j'aime bien capillotracter.
2752 par 2064. Donc, bon, par contre, M4 doit savoir gérer ça.
Ce qui est un petit peu décevant, Élie, à tous d'ailleurs, c'est le côté Wi-Fi. C'est-à-dire qu'introduire le M4 en restant en Wi-Fi 6E. C'est un peu le Wi-Fi 7, il est quand même là, il est quand même dispo, et c'est vrai qu'avoir une nouvelle génération de processeurs, seconde génération 3 nanomètres, et puis on garde du 6E, je tique un petit peu quand même.
Tu sais pourquoi le premier produit Apple à gérer le Wi-Fi 7 sera l'iPhone 16, hein, c'est déjà dans les cartons, c'est déjà noté par tout le monde.
Ouais.
C'est quand même l'iPhone qui fait Uber Apple, hein, je vous le rappelle. Hein. Et après, ça sera suivi par les produits du reste de la gamme. Mais d'abord ça sera l'iPhone.
D'abord. Après, ça peut être un update qui peut arriver plus tard. Hein. Ça, c'est déjà arrivé qu'il y ait des choses qui, sans faire de keynote ou quoi que ce soit, des devices évoluent juste sur la partie Wi-Fi ou Bluetooth. Et puis, on se rend compte sur le site que, ça y est, ils ont mis à jour le Wi-Fi, etc. C'est déjà arrivé. Mais c'est un petit peu dommage pour ceux qui veulent vraiment avoir le set of the art de tout. Ils l'auront pas forcément avec le Pro. Parce qu'il y a une vraie différence quand même.
Ouais, je suis d'accord.
Alors, il y a une info qu'on n'a pas encore donnée, c'est l'arrivée des versions 2 de Logic Pro et Final Cut Pro pour iPad.
Ça a l'air super impressionnant, en tout cas vu à l'écran. Hein.
Ouais, avec un point intéressant, c'est que l'IA, ben, on commence vraiment à en parler dans ces logiciels-là déjà. J'ai eu l'impression d'une sorte d'apéritif avant la WWDC du mois prochain.
C'est ça, et puis... la possibilité de faire jouer à plein l'intelligence artificielle en émulant de façon extrêmement fine des instruments, y compris des instruments analogiques. C'est absolument génial pour des professionnels ou même des petits jeunes fortunés et passionnés, semi-amateurs. C'est un truc un petit peu de folie. Et puis il y a la possibilité de pouvoir faire travailler ensemble jusqu'à 4 iPhone Pro et de se servir de l'iPad Pro en tant que table de montage à la volée.
C'était très impressionnant, ou le détourage en temps réel dans un film d'un personnage. C'est super impressionnant.
Ça, c'était bien fait, ouais. Et aussi, il y avait la piste audio aussi. Où ils arrivaient à faire 4 pistes, à récupérer les sons, batterie basse, synthé, voix, etc. Ils arrivaient à faire du
sampling.
Pour des équipes.
Alors c'est toujours un peu à la limite du droit d'auteur, ça, parce que ça revient à prendre des morceaux existants pour en extraire. Il y a un certain nombre de mesures maximum, je ne sais plus combien, mais...
Ils ont dit vos morceaux. Ils sont couverts.
Ils ont dit vos morceaux. Ouais, d'accord.
Oui.
Que t'as obligé, que les morceaux que tu as oublié d'enregistrer en multipiste, donc tu es obligé de refaire tes pistes.
Bon, en tout cas, je vais vous avouer un truc, c'est que moi j'avais qu'un seul œil sur la keynote et j'ai raté la petite démo de Final Cut version 2 pour iPad, donc j'ai hâte de la rattraper.
Ah oui.
Ça a l'air bien. Aimer, hein. Ouais.
Oh, oui.
J'ai juste vu la petite démo de détourage en temps réel et en un clic.
Ça a l'air très bien. Alors, je vais pas faire long parce que je me presse d'ajouter. Je suis pas utilisateur d'iPad, donc c'est vraiment pas pour moi. Mais cela dit, il y a un côté que je retrouve toujours commun à tout ça, c'est que plus on avance, plus on monte en gamme pas seulement de prix, hein, mais de puissance, etc., plus on s'adresse à un nombre réduit de personnes. C'est-à-dire que c'est vraiment professionnel. Ça fait du montage multicam en direct avec jusqu'à 4 sources vidéo. Donc, ils ont aussi sorti une application compagnon qui s'appelle Final Cut Camera. Et donc, tu peux avoir 4 iPhones qui sont dans la pièce et qui vont envoyer le flux vidéo à l'iPad Pro. Et tu vas faire ton montage en direct comme dans une régie, quoi.
Ça, c'est top.
C'est complètement dingue de faire ça avec, avec juste un iPad. Donc voilà, dans ces cas-là, un iPad qui coûte 3000 euros et 4 iPhones qui vont coûter 1500 euros chacun, c'est pas cher.
Pour un studio.
On parle pas du tout de la même catégorie, on parle pas, c'est pas du tout les mêmes utilisateurs. C'est pour ça que on se gausse, moi le premier, hein, des fois des prix élevés de ce genre d'appareil, mais ça remplace des appareils que les pros utilisaient encore il y a 5 ans, qui coûtaient 5, 10, 20 fois plus cher. Élie, toi qui as vendu des trucs à des pros, tu sais ça mieux
c'est
que moi.
C'est tout à fait vrai.
Hein? Donc c'est moi je reste aussi sur l'exemple, la petite anecdote que j'ai, c'est que j'ai un client qui fait des documentaires et qui a remplacé une caméra avec laquelle il se transportait de temps en temps pour faire des fois des interviews sur le tas par à l'époque c'était il a changé ça avec un iPhone 11 Pro, ça existait ça, parce que ça commençait à faire de la 4K, etc. Et donc il a fait des documentaires qui ont été diffusés avec des portions filmées avec ça. Et il avait pris le truc à 1500 euros ou machin parce que ça lui remplaçait une caméra à 15 000.
Eh oui.
Donc voilà, c'est de ça dont on parle, quoi. C'est aussi, et ça rejoint ce que disait Fred, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de volume parce qu'on n'en vend pas des millions des appareils comme ça. C'est
bien sûr. Bon, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette keynote Let Loose d'aujourd'hui, 7 mai 2024, avec ces nouveaux iPad Air, ces nouveaux iPad Pro, ce Pencil Pro, ces versions 2 de Final Cut et de Logic Pro. Et puis voilà, on va attendre leur arrivée la semaine prochaine. Donc, ce sera mercredi 15 mai dans toutes les bonnes boutiques et notamment chez MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Tu veux partir, hein, Élie, hein, c'est ça, hein, tu nous fais des grands signes. J'adore parce qu'Élie nous fait des signes silencieux. Il faut que j'y aille.
Je suis désolé, mais j'ai réussi à gratter 30 minutes de plus par rapport au début de la réunion. Et je vais me faire juste tuer par tous les autres.
Vas-y. Il faut que tu gères tes commandes, bien sûr.
Désolé.
Phil, merci d'avoir été là.
Salut, merci d'avoir été là, Élie.
On te fait une grosse bise. Merci d'avoir fait l'impossible pour passer ce moment avec nous. On va continuer sans toi, c'est pas grave.
Je t'envoie le fichier.
D'accord, merci. Merci, le fichier, oui, ton fichier audio, puisqu'on fait un mixage en post-prod de chacun des fichiers enregistrés par les participants du podcast. Élie, on continue donc sans toi et on revient sur ces résultats trimestriels donc annoncés la semaine dernière par Apple. Des résultats qui ont surpris, principalement parce que tout le monde s'attendait à ce qu'ils soient très mauvais en Chine, et ils l'ont été moins que prévu. Alors, ils n'ont pas été forcément bons pour autant, mais en tout cas, beaucoup moins mauvais que prévu. Et l'action a très, très bien réagi le lendemain, puisqu'elle a gagné près de 7%. Vous avez suivi cette annonce tous les deux, Fabrice, Gilles, et aussi toi, Fred. Quelle est ta lecture, Fred, de ces résultats? 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 23,6 milliards de dollars de bénéfices, et puis une part des services maintenant qui représente vraiment un quart du total, et ça ne cesse d'augmenter.
Ouais, ben disons que ce que je remarque quand même, c'est que ça fait plusieurs trimestres, 4 ou 5 trimestres, qu'il y a quand même pas mal de, pas un segment, mais plusieurs segments produits qui baissent. Donc il y a toujours quelque chose qui va bien, c'est le service, hein, qui augmente, mais ça c'est, il y a une sorte d'inertie, hein, parce qu'il y a quand même une base installée, et les gens consomment plus de photos, etc. Mais c'est quand même relativement inquiétant, je pense, pour Tim Cook, de pas pouvoir annoncer les chiffres du Vision Pro. Voilà, qui est un super succès. Il se félicite que 50% effectivement du Fortune 100.
Comment tu le sais?
Hein?
Comment tu sais que c'est un super succès?
Ben, c'est lui qui le dit. En fait, moi, je suis pas sûr que ça soit un succès.
C'était
en tant
ironique, il me semble.
C'était ironique, voilà.
Merci. C'était pas sûr, hein.
Ouais. Mais ça dépend comment on prend le truc. Moi, je le prends comme un casque qui est vraiment révolutionnaire et qui est de la R&D qui aurait dû rester comme ça. Il a été présenté avec massivement des usages grand public, enfin loisirs, maison, avec je photographie mes enfants, je les filme, je regarde des films, etc. C'est pas quand même le but à 3500, enfin ça fait 4000 quelques dollars, hein. Enfin dans les faits c'est hors taxe, hein, donc c'est 4000 dollars. À 4000 dollars, c'est pas un truc grand public mainstream. Donc dans ce truc là, mais c'est Apple qui l'a présenté aussi comme ça, hein, massivement, comme un truc pro et en même temps très grand public, très très domestique. Puisque c'est qu'aux US et il peut pas annoncer des chiffres de vente. Je pense que s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de retours.
Alors pourquoi ils pouvaient pas? Parce qu'ils sont entrés les chiffres, ils ont
parce qu'ils
ils
sont
ont,
pas bons.
Ils sont entrés dans le trimestre.
Ah, parce oui, qu'ils sont mais pas ils bons. Sont entrés où? Il peut pas les rentrer dans le wearable qui descend. Il peut pas les rentrer. Il est obligé de les rendre dans le Mac, puisque il dit c'est le futur du Mac. Donc c'est un ordinateur spatial. Alors, donc il a dû les mettre.
Je me souviens que Tim Cook avait dit que ça entrait dans les wearables, hein, le Vision Pro.
Ah ben, oui, mais alors voilà, ça fait partie des trucs un peu tordus, c'est-à-dire il peut le cacher dans le wearables, le problème c'est que ça chute, donc c'est pas quand même génial, et alors
donc,
on
c'est
peut
pas
dire,
terrible.
Mais voilà, je vais mettre le chiffre, au moins le chiffre de vente, il peut pas le faire non plus, donc il est encore coincé, il doit faire des claquettes, et là il dit, vous l'avez entendu, 50% des entreprises, des plus grosses entreprises américaines, la moitié des entreprises ont commandé un Vision Pro ou plusieurs. Mais en fait, ce qu'il faut lire, c'est qu'il y a les 50% d'autres qui n'ont même pas commandé un Vision Pro à 4000 dollars. Et je peux vous garantir que dans le Fortune 100, toutes font de l'innovation, toutes font de la 3D, de la VR et compagnie. Donc moi, ça m'inquiéterait qu'il n'y ait que la moitié en 3 mois des Fortune 100 qui en ont rien à faire du Vision Pro. Là, c'est quand même étonnant. Donc, il a fait quand même un exercice qui n'est pas facile parce que je pense que ça n'a pas vraiment bien marché. Et vous verrez que quand il va le déployer à la WDC, il va devoir déployer ça sur d'autres pays. Et bien, il va se retrouver à l'automne avec le même exercice. Est-ce qu'il va pouvoir annoncer des chiffres de vente de son Vision Pro ou pas? Et il pourra toujours pas. Je pense qu'il va pas le faire parce que si ça marche pas aux États-Unis, très bien. On va dire que c'est pas forcément une catastrophe. Hein. Ils peuvent le faire et c'est de la R&D, qui est disponible dans tous les Apple Store ou presque. Donc c'est très bien. Mais il va pas pouvoir non plus. Ça va pas forcément marcher d'un seul coup en Chine ou au Japon parce qu'il y aurait quelque chose d'un petit peu particulier là-bas. J'y crois pas vraiment parce que c'est un produit cher, c'est un produit qui est pas fini. Il y a pas de contenu. On n'a pas vu arriver beaucoup de contenu 3D, etc. Déferler sur ce casque-là. Je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas beaucoup d'applications pro, même d'Apple, qui ont été portées sur le Vision. Même toutes les applications standards ne sont pas encore portées sur le Vision Pro. Donc, ce n'est pas forcément grave, mais ce produit va mettre du temps. Et donc, oui, globalement, je vois quand même depuis plusieurs trimestres Tim Cook sur la défensive. Ce qui n'est pas très bon signe et surtout c'est qu'il fait un truc record que personne ne fait, il n'y a aucune entreprise qui donne autant de rachats d'actions, j'ai calculé il y avait 740 millions, c'est 12 plans autant Jobs il faisait rien il ne mettait pas de dividendes, il n'y avait pas de rachat d'actions, autant Tim Cook qui est à 12 plans de rachat, ça représente 740 milliards de dollars, les plans c'est colossal, j'ai regardé Microsoft et tout ça, il n'y a personne dans la tech qui fait ça. Donc, c'est quand même... Alors, bien sûr, mécaniquement, ça soutient l'action.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les non-spécialistes de la finance qu'Apple fasse du rachat d'actions, de ses propres
alors,
actions?
Le rachat d'actions, c'est une façon, ils le disent d'ailleurs, le directeur financier le dit, c'est une façon de redonner du cash. Il estime qu'il a trop de cash, on a trop de cash en réserve. Et donc, je vais racheter des actions à Apple, ce qui fait que ça réduit le nombre d'actions et mécaniquement quand vous faites ça, eh bien, ça fait augmenter, c'est ce qu'on a vu, ça fait augmenter le prix de l'action. Donc c'est une façon de redonner avec les dividendes, c'est un des moyens qui est utilisé pour redonner de l'argent,
de la valeur au titre.
Oui. Aux actionnaires, ce qui fait monter le titre. Donc potentiellement, s'ils vendent, ça peut être plus sympa. Mais c'est un peu tordu, c'est-à-dire qu'on peut donner directement des dividendes, hein, mais le rachat d'actions, c'est quelque chose qui est très marqué chez Tim Cook. Il a toujours fait il a toujours 12 programmes hein, quand même, donc c'est pas anodin. Hein, ça fait 12 ans qu'il fait ça. Et donc moi, j'aurais aimé qu'il profite un petit peu de ce cash excédentaire pour peut-être faire certaines actions pour simplifier les gammes. Alors pas forcément baisser les prix d'entrée de gamme, mais mieux les fournir. C'est-à-dire arrêter d'avoir des gammes à 128 gigas mais commencer à 256, de pas être voilà le côté pingre un petit peu d'Apple qui propose des MacBook Pro à 8 gigas. Vous voyez, c'est, vous achetez un MacBook Pro à 2 000 €, vous avez 8 gigas de RAM, c'est pas sérieux quand même. Donc, je pense qu'ils sont pas dans une démarche pour penser client. Apple, j'ai l'impression, a perdu un petit peu l'écoute du client. Il y a quand même beaucoup de critiques. Ça baisse. Moi, je le trouve fragilisé. Pour en conclure, j'étais un petit peu long, désolé.
Non, mais c'est hyper intéressant. Gilles, est-ce que tu veux rebondir sur le malaise autour du Vision Pro ou le silence autour du Vision Pro?
Deux choses. Le Vision Pro, pour moi, c'est un produit pro et je vais voir encore une fois la coupe à moitié pleine. Hein, c'est 50%. Hein. On a une courbe d'adoption avec des gens, des gens qui ont une façon de fonctionner différente. Il y a ce qu'on appelle les visionnaires, les early adopters, il y a les pragmatiques, il y a les gens qui sont conservateurs. Là, c'est la première moitié de la courbe qui, d'entrée, s'est mise à vouloir tester l'eau du bain. Je trouve ça plutôt encourageant. Je vous ai cité, il y a quelques semaines, une étude qui avait été menée en France. Un tiers des entreprises françaises avait déjà, pas seulement de la tech, mais de la santé, la vente et le sport, avait testé, acheté pour développer des applications pro-métier sur le Vision Pro. Un autre tiers était tenté de le faire pour... Alors, ils n'avaient pas acheté du Vision Pro, ils avaient commencé à développer des applications. Un autre tiers était intéressé pour le faire et entendait sans doute la disponibilité du truc. Et seul un tiers n'était pas intéressé. Je pense qu'il faut attendre encore un peu. Il y a encore cette comparaison hein, qu'on partage avec Ellie, sans doute parce qu'on est franchement trop vieux pour cette bande. C'est le Lisa. Le Lisa, c'était pas extrêmement vendu. Il avait même été plus ou moins un échec commercial et avait fini par servir de base de réflexion ensuite pour le vrai Macintosh, pas celui de Jeff Raskin, mais celui de Steve Jobs. Puisqu'on parle de Steve Jobs, la réflexion que je me suis faite, c'est...
Catching
Michael Dell avait conseillé de rendre à Steve de rendre l'argent aux actionnaires et là c'est Tim Cook qui s'en charge en fait.
Je rejoins beaucoup l'analyse aussi de Fred. C'est un produit potentiellement en devenir, donc c'est pas encore, il est pas sec en fait le Vision Pro. Si on en croit justement Florent Morin, c'est à lui que tu faisais référence, qui m'a gentiment fait essayer son Vision Pro. Lui, il pense vraiment et il est à fond là-dedans sur le marché professionnel, mais qui globalement n'est quand même pas un marché naturel pour Apple, c'est-à-dire que le marché professionnel tel qu'on l'entend dans ce cas-là, c'est-à-dire pour les entreprises, c'est pas un marché naturel pour c'est les PC qui sont dans les entreprises, c'est pas les Mac, donc c'est pas le Vision Pro non plus, donc dans ces cas-là c'est pareil, le marché pro on sait pas exactement ce que ça veut dire, et là encore c'est très réduit comme ce que je disais tout à l'heure pour les iPad Pro qui coûtent 1 000 € mais qui sont destinés justement à des utilisations super pro et très très niche. Donc c'est voilà pour l'iPad Pro, pour le Vision Pro, on verra bien. Je pense qu'il faut donner un peu le temps au temps. Il y a un petit peu d'arrogance habituelle d'Apple parce qu'ils ont lancé ça comme un produit. Alors il faut bien qu'ils y aillent en disant que c'est fantastique, mais c'est vrai que pour en faire, c'est en gros un téléviseur magnifié. Et c'est quand même un peu cher pour ça. On verra bien. J'attends beaucoup en fait de la WWDC parce qu'il y aura Vision OS 2.0. Il y aura d'autres, probablement d'autres applications pro, et notamment celle d'Apple. Probablement de la traduction, c'est-à-dire que le Vision Pro aujourd'hui, le Vision OS est uniquement disponible en anglais, il sera forcément disponible en plusieurs langues, et donc aussi lancé dans d'autres marchés. Ouais, donc on verra bien. Donc il n'y aura pas de chiffre de vente non plus à la WWDC parce que c'est pas terrible. C'est vrai que le côté la 50% des top 100, ça m'a fait rire parce que je me suis dit tout de suite, ah oui, donc ils en ont vendu 50. C'est quand même pas beaucoup. voilà.
C'est drôle.
Pour revenir sur peut-être un tout petit truc sur les résultats financiers, moi il y a un truc qui m'a frappé, c'est l'iPad. C'est-à-dire que l'iPad est en... Les revenus sont en baisse, mais ils en ont quand même vendu pour 5,6 milliards de dollars, malgré des machines qui n'ont pas été mises à jour, renouvelées depuis longtemps. Moi, ça alimente ma réflexion sur les machines et les ordinateurs, quels qu'ils soient, que ce soit des tablettes ou des MacBooks ou n'importe quoi, qui durent de plus en plus longtemps. Et c'est une des démonstrations de ça, c'est que malgré tout, donc il y a des nouveaux iPads qui sont sortis. Si on a acheté un iPad la semaine dernière, c'est peut-être dommage, mais en même temps, l'iPad qu'on a acheté la semaine dernière, on va l'utiliser pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans. Donc c'est pas grave tout ça. Là encore, quand on est sur un super pro, qu'on a vraiment besoin de la top moumoute des dernières technologies, très bien, on dépense les 3000 euros pour un truc qui vient de sortir. Mais sinon, acheter le MacBook d'il y a 2 ans ou l'iPad d'il y a 3 ans, c'est très bien. Et je pense que c'est aussi quand même vers là que s'acheminent toutes ces grosses boîtes, et Apple y compris. Il y a un moment, la croissance à 2 chiffres tout le temps, etc., c'est pas possible et c'est pas raisonnable. Donc il y a, je pense aussi, alors moi ça fait partie, pardon, de mon message militant habituel, faites durer vos appareils, et c'est peut-être pas bon pour la marche brutale d'Apple et des autres, mais c'est pas grave. Voilà, donc il semblerait que le marché de seconde main augmente, et Apple est encore capable de vendre 5,5 milliards d'iPad un dernier trimestre alors qu'ils n'ont pas été renouvelés pendant 2 ans. Et ben moi je préfère, finalement, ça me va bien.
Très bien. Fred, est-ce que tu avais autre chose à nous dire et à partager avec nous sur ces résultats trimestriels?
Les résultats, après c'est l'exercice de claquette de Tim Cook avec voilà, il faut montrer que la mariée est belle, etc. Je remarque, j'insiste souvent que Tim Cook continue à nous dire qu'il ne communique pas sur l'IA, sur les futurs projets. Pourtant, il a fait avec le Vision Pro. Donc, il a fait 9 mois avant. Il a expliqué tout du Vision Pro. Le produit n'était pas sorti. On était, je crois, au mois de juin. Il a tout expliqué, l'OS, le kit, etc. Mais il a dit, il faut bien préparer la communauté. Mais il ne parle pas des futurs produits. Par contre, l'IA, il en parle toujours pas. Donc, j'espère qu'à la WWDC, il va pas pouvoir, bien sûr, rattraper le retard que Apple a pris. Mais j'espère quand même qu'il va donner au moins une vision, une stratégie de l'IA, parce que dans ses choix, il a choisi clairement de parler plutôt du Vision Pro et de sortir le Vision Pro plutôt que l'IA. Alors ça s'est fait il y a longtemps, hein, ce choix-là. Il s'est fait il y a bien avant la sortie du Vision Pro, au moins 1 an avant. Mais ils se rendent compte quand même qu'il va falloir quand même donner un cap à toute la communauté des développeurs Mac, iPhone, etc. sur ça. Donc j'espère qu'effectivement, là, il a toujours pas fait. Il a dit que ça serait un moment fort. Donc moi, j'espère beaucoup de la WWDC. Et j'espère qu'ils vont pas faire trop de claquettes et qu'ils vont vraiment nous annoncer des choses vraiment intéressantes, surtout qui sortent de la R&D, parce que la R&D, il y en a toujours chez Apple. J'ai aucun doute sur la compétence des ingénieurs Apple et des investissements. La R&D est très importante. Le problème, c'est de passer de la R&D à des produits, des services qui fonctionnent. Et ça peut prendre du temps. Donc, je croise les doigts.
Voilà. Rendez-vous le 10 juin pour la keynote de cette WWDC 2024. On passe à nos coups de cœur et à nos cartons de la semaine. Alors, je laisse Gilles et Fred réfléchir. Si vous n'aviez pas encore d'idée, vous avez une minute pour la trouver. Je me tourne vers toi, Fabrice, parce que je sais que tu as travaillé.
Oui, alors je voulais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé pour le 180 quand on avait eu Denis Delbecq comme invité pour son application Chuchoti.
Absolument, ouais.
J'avais évoqué un logiciel que j'aime bien qui s'appelle PDF Pals pour avoir une conversation avec des PDF grâce à l'intelligence artificielle. Et à ce sujet, j'ai eu une petite conversation. J'ai été contacté par l'ami Matt de Prof du Web qui fait un podcast aussi avec Audrey Coulot.
Apple différemment.
Ouais, Apple différemment. Et parce qu'il m'a fait remarquer, mais dis donc, est-ce que tu es sûr que ça marche en local ton truc? Et donc, il m'a gratté dans le bon sens parce que du coup, j'ai un petit peu creusé le sujet. J'ai contacté aussi le développeur de PDF Pals et qui a quand même finalement réussi à me cracher que pas tout le temps, c'est pas toujours en local, mais on peut le faire. Donc je me suis amusé à faire un petit peu de recherche et à trouver des outils pour faire tourner les choses en local. Alors il se trouve que Matt a fait une vidéo pour ses abonnés qui parle de ça. Et il m'a fait découvrir un petit outil. Et du coup, je voulais en parler parce que je trouvais ça sympathique. On trouve sur le Mac App Store une appli qui s'appelle Enchanted. Enchanted, qui est capable ensuite de faire tourner des modèles de langage d'intelligence artificielle qu'on installe en local. Il faut au préalable avoir installé autre chose, un truc qui s'appelle Olama, O-L-L-A-M-A. Et ensuite, on peut, via ça, télécharger des modèles qu'on fait tourner en local. Bon, alors, c'est pas un truc pratique, mais ceux qui sont intéressés peuvent chercher. Et donc, on peut faire tourner Mistral, Llama 3, Gemma, qui est sont les modèles de langage qui sont réduits en taille, qui font que 4 milliards de paramètres, par exemple, entre 4 et 7. Pour faire tourner l'intelligence artificielle en local et donc conserver ses données uniquement sur son Mac pour les faire tourner. Et cette petite application Enchanted donne une interface graphique qui est sympa et agréable pour l'utiliser. Donc c'est ça mon coup de cœur. C'est l'IA en local pour faire Mumuse via Olama et Enchanted. Et
super,
merci à Matt.
Voilà, on fait une bise à Matt et à Audrey Coulot qui a longtemps participé à iWeek avant de lancer son propre podcast avec Matt.
Exactement.
Je me tourne vers vous, Fred et Gilles. Est-ce que vous avez un coup de cœur ou un carton? Parce que ça sert aussi à ça.
Deux coups de cœur, c'est sur Apple TV, c'est Sugar. Ah. Qui est vraiment une super série, un petit peu comme Los Angeles, le côté polar, etc. Donc c'est pas fini, vraiment très sympa. Et la deuxième, c'est Lincoln, que j'avais pas vu, et qui est vraiment aussi sympa, très sympa. J'ai appris pas mal de choses sur la vie de Lincoln, voilà.
Tu parles de Franklin.
Ils ont pris des libertés avec la vie de...
Voilà, ils ont pris des libertés, mais je trouvais que le résultat était assez sympa, assez romanesque.
Tu parles de Franklin ou de... Parce que je connais pas Lincoln.
Franklin, le président,
Le président. Ah oui, d'accord.
C'est Abraham, d'ailleurs.
Oui, avec Abraham Lincoln, pas longtemps, mais...
Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt et Abraham Lincoln.
Super, voilà deux idées pour ce long week-end.
Ouais.
Ce long pont, en tout cas. Gilles, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller ou un carton à dégainer?
Je vais prolonger la philippique de Fred à propos des derniers résultats, parce que là, en plus, Apple a augmenté le dividende juste pour faire le lien avec la WDC, pour pas que l'action se casse la figure. Alors, sur les rachats d'actions, moi, j'ai pas de soucis, parce qu'il faut en racheter pour pouvoir en redistribuer en tant que carotte aux différents employés, aux différents responsables. Mais le fait de financer le cash excédentaire, de le redistribuer en dividendes, et puis ensuite d'avoir des emprunts pour faire de l'optimisation fiscale, si vraiment Apple a trop de cash, plutôt que les donner aux actionnaires, il ferait aussi bien de les redonner aux contribuables dans les pays où Apple vend des produits et des services. Voilà, c'était mon coup de gueule.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi à Ellie qui nous a quittés avant la fin de cet épisode. C'était donc le numéro 185 d'iWeek Last Man Apple. Si vous aimez notre rendez-vous hebdo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast hein, pour recevoir les nouveaux épisodes. Petite parenthèse, hein, on a quand même beaucoup souffert des bugs d'Apple Podcast. Alors je reprofite de notre rendez-vous pour vous redire que voilà, c'est totalement indépendant de notre volonté. On est loin d'être les seuls podcasts à être touchés par ces bugs qui font que bah, quand vous lancez la lecture d'un épisode, vous entendez un autre épisode. C'est particulièrement horripilant. Ça dure depuis plusieurs semaines. Visiblement, ça embête encore certains d'entre vous. Donc, je tiens à vous dire que nous n'y sommes absolument pour rien. Nous publions les bons épisodes dans les bonnes cases. Et ensuite, c'est vraiment lié à Apple Podcast et à Apple. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de vous arracher les cheveux, on vous suggère d'en profiter pour tester une autre plateforme d'écoute, notamment Overcast, qu'on aime beaucoup, mais vous en avez beaucoup d'autres, hein, vous les connaissez toutes, TuneIn, on est même sur Amazon Music, enfin, vous avez vraiment le choix. Testez d'autres plateformes et les bugs seront réglés en attendant qu'Apple s'en occupe. Voilà. Allez, c'était mon petit coup de gueule carton, parce que c'est vrai que cette histoire nous empoisonne et vous avez naturellement tendance à croire que c'est lié à un problème de notre côté, alors que nous n'y sommes absolument pour rien et bien d'autres podcasts vivent les mêmes désagréments que nous et que vous avec leurs auditeurs. Donc voilà, vous avez une solution simple, c'est de changer de plateforme d'écoute au moins temporairement. Et puis on espère que les choses reviendront dans l'ordre très très vite. Voilà pour donc la fin de cet épisode 185. Donc vous pouvez quand même vous abonner, hein, ne boudez pas votre plaisir. Vous avez aussi la page Patreon, patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté, nous soutenir et profiter des bonus dont celui qu'on s'apprête à enregistrer pour vous sur nos souvenirs du tout premier iPad. On va revenir presque 15 ans en arrière. Merci à vous trois. Merci beaucoup Fred Krasa d'être venu dans iWeek. C'est toujours un grand, grand plaisir.
Ouais, merci. Merci beaucoup. Je dois vous quitter rapidement parce que je dois partir. Ma vas-y. Femme tape.
Eh bien, vas-y, file. Merci,
je vous embrasse. Merci.
Nous aussi, Fred. Merci d'avoir été là. Je salue aussi mes deux autres camarades, Fabrice Neumann et Gilles Denès. Merci les garçons d'avoir été au rendez-vous.
Merci capitaine.
C'était grand plaisir. Grand plaisir. Remettez-vous de cette keynote. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. D'ici là, les réseaux, on est partout. Hein. iWeek.news ou iWeekNews avec le hashtag iWeekLSA. Si vous voulez être prévenu directement sur votre smartphone de l'arrivée de nos nouveaux épisodes, abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp et regardez bien en bas à gauche le bouton Actu dans l'appli pour justement profiter de ces alertes sur notre chaîne WhatsApp. Dans un instant donc le bonus si vous faites partie de notre communauté et on se retrouve pour tous les autres la semaine prochaine pour l'épisode 186. Salut à tous. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.